bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, le rendez-vous, le même pour parler de sport. La musique, c'est la même. C'est Sporama sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Vous nous appelez comme chaque semaine. Le numéro de téléphone, le 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. On va refaire l'actualité sportive sur le continent et sur la planète sport. On va accueillir nos invités. Il est avec nous depuis Skype via Kinshasa de Top Congo FM, notre station partenaire. Thierry Kamoundi, bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas et bienvenue à Kinshasa.
On va saluer également à Casablanca au Maroc, Amine Birouk qui est avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Jules Valentango nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Élisée Mpatine est avec nous depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on va saluer enfin à Dakar, Amédine Sy qui est avec nous. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Allez, on va commencer bien évidemment par l'actualité ce soir, en ce moment même, direction Londres, hein, pour évidemment parler des trophées meilleurs FIFA de l'année, the best comme on dit en anglais. Les trophées sont remis actuellement, on attend bien évidemment de savoir qui va être sacré meilleur joueur FIFA. Petit indice, puisque Cristiano Ronaldo a séché cette cérémonie officiellement pour préparer le match cette semaine contre Bologne, mais le joueur de la Juventus qui n'est pas sur place, le favori, c'est Luka Modric. Luka Modric qui a remporté 4 Ligues des Champions lors des 5 dernières saisons et également, bien évidemment, le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. On a Mohamed Salah qui vient de recevoir le prix évidemment du plus beau but, le prix Puskás, et Jules Valentangue, il est Didier Deschamps qui a reçu le prix de, du meilleur entraîneur de l'année. Justifié selon vous, il était devant Zidane et également devant le sélectionneur de la Croatie. Jules Valentangue, est-ce que vous nous entendez?
Oui, Nicolas, je vous entends, mais c'est un peu brouillé.
Alors allez-y, c'est à vous. Est-ce que Didier Deschamps, meilleur entraîneur de l'année dans cette année Coupe du Monde, est-ce que ça se justifie notamment devant Zinedine Zidane, triple vainqueur de suite de la Ligue des Champions?
Oui, je le pense, parce que Zidane a bien sûr fait une très bonne année. En plus, elle clôture en quelque sorte un succès de trois succès successifs. Mais sinon, je pense que avec le Real Madrid, il a une équipe qui lui permet de faire les résultats. Par contre, Deschamps a trouvé une équipe qui doutait et, ma foi, il a réussi à faire un collectif redoutable en faisant des choix tactiques qu'il a assumés tout seul. Et finalement, ça a donné les résultats malgré les critiques. Donc je crois que si la France a gagné la Coupe du Monde, elle le doit en grande partie à 110% à son entraîneur. Donc c'est une récompense méritée.
Alors Amine, si vous êtes avec nous à Dakar, Cristiano Ronaldo qui boude la cérémonie hein, officiellement pour préparer un match cette semaine, est-ce que c'est fair play de la part du Portugais qui vraisemblablement ne sera pas décerné meilleur joueur, mais plutôt Luka Modric? Qu'est-ce que vous pensez de l'absence du Portugais? On va noter également que Lionel Messi est absent, mais lui pour des raisons familiales.
Oui, ça, ça n'est pas bon pour Cristiano Ronaldo parce que ça me rappelle en 2008 en Afrique, le ballon d'or africain a été donné à Emmanuel Adebayor. On se rappelle encore parce que tout simplement, Didier Drogba, qui était le meilleur joueur africain de l'époque, avait boudé quand même cette cérémonie. Je pense que ce sera la remake de cette cérémonie parce que si on regarde la performance quand même de ces trois finalistes, chacun de ces trois finalistes pour quand même remporter ce ballon d'or, puisque Cristiano Ronaldo, on l'a vu, qu'il a porté quand même cette équipe du Real de Madrid à Ligue des Champions, qui est la plus prestigieuse compétition en Europe, mais Modric aussi a brillé au niveau de la Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde, c'est autre chose. C'est vrai qu'il n'a pas gagné, mais le fait d'amener une équipe comme la Croatie, un petit pays, l'amener jusqu'à la finale, je pense que si on lui donne ce ballon d'or, ce ne serait que justice. Salah aussi aurait mérité quand même de remporter ce ballon d'or, mais il devait gagner quand même la finale de la Ligue des Champions. Mais malheureusement pour lui, je pense que pour le moment, les votes iront à l'endroit de Modric qui a réalisé comme un exploit, parce qu'en football aussi c'est ça, il faut savoir récompenser les joueurs qui ont créé de l'exploit, parce qu'on suit le football grâce à, aux exploits de ces joueurs. Nicolas Pino,
voilà, on parle bien du meilleur joueur FIFA, hein. Le Ballon d'Or, ce sera décerné le 3 décembre prochain. Vous direz également que Thibaut Courtois, le gardien de but de la Belgique, hein, mauvais perdant selon moi de la demi-finale, il a été sacré meilleur gardien. On va vous donner, hein, quand tombe le prix, on va vous donner ça bien évidemment. On marque une première pause sur VOA Afrique. Allez, retour sur le continent africain, on va parler football, on va parler Ligue des Champions, on va prendre la direction de Rabat, de Casablanca au Maroc justement, pour retrouver Amine Birouk. Alors est-ce qu'Amine est toujours avec nous? On va me faire signe du côté de la régie. Alors Amine est parti, mais c'est pour mieux nous revenir, pour parler bien évidemment des demi-finales de la Ligue africaine des champions, puisque le champion en titre, le Wydad de Casablanca, le tenant du titre, il a été éliminé par l'Entente de Sétif, vainqueur 1-0 à l'aller. Les Algériens sont allés arracher le nul 0-0 au Maroc. L'Entente de Sétif qui affrontera les Égyptiens d'Ali du Caire, victorieux des Guinéens de Oroya 4-0. Élisée Mpatine à Boïko au Bénin, on le disait, hein, une affiche de quart de finale déséquilibrée. Oroya, hein, qui avait tenu à peu près lors du match aller, a explosé au match retour 4-0. Hein.
Oui, Nicolas, bien sûr, le niveau, hein, du football entre les pays maghrébins et bien sûr l'Afrique subsaharienne. C'est vrai, on a vu durant des années le tout-puissant Mazembe qui a pu tenir tête, hein, a fait grande formation venue du nord de l'Afrique. Et Nimba en a fait, hein, en remportant deux Ligues des Champions. Et entre-temps, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns ont pu remporter à Duchina 3 ans cette compétition pour avoir imposé, hein, le football, hein, puisque déjà l'année suivante, eh bien, c'est les Marocains de WAC qui l'ont emporté. Et puis cette année, cette équipe n'a pas pu se qualifier pour l'étape suivante, puisqu'elle est éliminée déjà en match de poule. Maintenant, il faut dire que le National du Caire, c'est une grande institution, déjà qu'on peut comparer, hein, à des grandes nations ou à des grands clubs européens. Il passe encore Patrice Capiron qui allait de ce côté-là apporter son expérience. On a vu le National du Caire qui aurait pu marquer beaucoup de buts si l'international marocain Azarou n'avait pas raté beaucoup, hein, de face à face, hein, qu'on aurait pu assister à un loup score. C'est vrai que bien l'équipe de, entraînée par Vitor Zunka a beaucoup appris, et puis peut-être l'année prochaine elle pourra encore étoffer son effectif, pourquoi pas aller chercher de très bons joueurs, aller chercher ce titre de champion d'Afrique très convoité par les clubs du Maghreb.
Alors on le disait bien évidemment, hein, Al Ahly, hein, qui va pouvoir affronter Sétif. Le Wydad Casablanca, on retrouve justement au Maroc notre ami Amine Birouk. Amine, le Wydad, hein, qui est passé à la trappe, hein, sur ce quart de finale, qu'est-ce qui s'est passé pour les champions en titre qui sont un peu en dedans ces derniers mois,
hein? Une interrogation qui a démarré depuis le départ de l'entraîneur Benzerti. Le Wydad avait signé une de ses rencontres les plus pleines contre Royal Conakry au match retour. C'était lors de la quatrième journée de la phase de groupe. Et le soir même, José Benzarté a annoncé son départ pour prendre les rênes de la sélection tunisienne. Depuis lors, il y a eu un intérim qui dure, celui d'Abdelaziz Kitini, qui était le manager général du club. Et a priori, la mayonnaise n'a pas pris. Le match contre Sundowns en phase de groupe a été pénible à gérer de la part de Wydadi. Depuis, on a vu une équipe au rendement décroissant. Au match, elle a été pendant 45 minutes, elle a déjoué. Lors de la seconde mi-temps, elle a poussé pour égaliser sans pouvoir avoir un jeu fluide, pour pouvoir avoir des situations claires devant le but. Il y a eu un remake quasiment du match aller pendant la première mi-temps, une équipe méconnaissable, stressée. La deuxième mi-temps a été de meilleure facture, mais il y a eu le facteur réalisme devant le but, notamment de la part de celui qui était considéré comme le futur sauveur du Wydad, le Libérien William Gibourg, de retour au bercail, qui a raté pas moins de 5 occasions nettes de scorer. Il y a eu également le match du gardien de but algérien de Sétif Zerba qui a tout sauvé. Et cette conjonction de facteurs fait qu'aujourd'hui le champion en titre passe à la trappe. Le Wydad de Casablanca ne doit s'en vouloir qu'à lui-même, parce que l'équipe possède les moyens individuels, possède je dirais le support du public, elle possède les moyens financiers pour pouvoir chaque année jouer les premiers rôles en Afrique. Elle a failli à cette mission face à l'équipe de Sétif sans génie, mais très bien organisée, l'équipe qui est capable de jouer sans complexe face à la Ligue d'Égypte. Les poulains du Maroc Rachid aussi n'auront rien à perdre lors de ces doubles confrontations face aux géants du football égyptien. Ils ont prouvé dans le groupe du TP Mazembe qu'ils avaient les moyens d'éliminer les équipes du calibre des milliers d'Alger, et cette fois-ci du Wydad de Casablanca, un champion méconnaissable depuis le mois de juillet dernier.
Merci beaucoup. On va se tourner à présent vers Thierry Kambundi, Top Congo FM, bien évidemment. Thierry, accident industriel pour les Corbeaux éliminés sur leur pelouse de Kamalondo face au Primeiro de Agosto. Qu'est-ce qui s'est passé pour les hommes de Porfírio Miyayo?
Mais ce qui s'est passé, c'est que les attaquants des Corbeaux n'ont pas pu mettre au fond les actions dont ils se sont procurés. Deux pénalties à la 44e puis à la 47e minute manquées respectivement par Ben Malango et Trezor Poutoumabi. Et une kyrielle d'occasions dont se sont procurés en première période comme en seconde période les Badianguena, comme on les appelle chez eux, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Englebert. Ils ont été maladroits, malheureusement, alors qu'ils avaient le match en main, alors qu'ils avaient réussi une bonne première partie à Luanda, même sans marquer des buts, alors qu'ils étaient poussés par tout un public. Vous connaissez la chaleur, vous connaissez la puissance du public de Kamalondo. Ils avaient tout pour remporter cette phase retour des quarts de finale, mais malheureusement, quand à un rendez-vous aussi important, on se loupe de cette manière-là, on manque de mettre au fond les occasions comme celle-là, notamment de penalty. Ben, ça paye cash. Les Corbeaux ont très vite d'ailleurs ouvert la marque. Hein. Ils ont donné le temps dès la 11e minute avant de se faire rattraper au score à la 33e minute d'une superbe manière. Sur coup franc, face à des Angolais courageux qui ont cru en leur chance et surtout, qui ont eu un gardien de but extraordinaire qui a sorti, on va dire, le match de sa vie pratiquement. Donc, les Corbeaux ont manqué juste cette efficacité, ce brin d'efficacité qui d'habitude est au rendez-vous à Kamalondo pour pouvoir valider leur billet. Donc, voilà, c'est ce qui a fait qu'ils ne se qualifient pas pour les demi-finales de cette Champions League.
Ah oui, on va rappeler hein, finalement que le Primeiro de Agosto va affronter l'Espérance de Tunis, vainqueur de l'Étoile du Sahel. On a bien évidemment, Elisa en parlait, hein, une prédominance du football nord-africain, trois équipes sur quatre sur ces demi-finales de la Ligue des Champions. Allez, on parle à présent de la Coupe de la Confédération. Avec vous, Élisée Oumpatine. Élisée, les Nigérians d'Enimba qui refont surface, hein, finalement, après quelques années un peu loin des hauteurs du football continental. Une demi-finale facilement arrachée face au Rwandais de Rayon Sport. Une victoire 5-1 hein, pour Enimba qui permet d'accrocher une demi-finale de la Coupe CAF. Hein.
Oui, hein, Nicolas, une première d'ailleurs, hein, depuis l'existence de ce club. C'est vrai que c'est un club qui n'a pas l'habitude de jouer la Coupe CAF. L'année dernière, elle a été éliminée au cours des matchs de poule. Cette année, c'est la bonne, puisque cette équipe a connu le bon, le moins bon, déjà en poule. C'est une équipe qui n'a pas arrêté beaucoup de victoires à l'extérieur. Et il faut dire que la seule victoire à l'extérieur, c'était contre les Maliens de Toliba, ce qui lui a permis de se qualifier pour le tour suivant. Sinon, déjà face à Terre Rwanda, le score nul a été enregistré du côté de Kigali. Et bien, cette équipe a littéralement explosé lors de la manche retour. Et avec ce succès, les Nigériens prouvent une fois encore qu'ils sont intraitables à domicile. C'est vrai qu'en poule, ils ont arrêté le match nul à domicile, mais cela ne suffit pas puisque déjà en élimination directe, une équipe qui a la possibilité d'inscrire beaucoup de buts pour avoir peur à cette équipe. Donc les Nigériens l'ont démontré une fois encore face au Rwanda. C'est vrai que bon, le football africain, quand on parle est des clubs rwandais, ce n'est pas encore le haut niveau. C'est vrai qu'on a connu APR dans les années antérieures, mais quand il s'agit du Rayon Sport, ce n'est pas encore le vrai niveau du football africain des clubs. Déjà, en demi-finale, il y aura du très gros morceau. C'est bien sûr les clubs venus du Maghreb et une fois encore, Enimba va hausser le niveau de ce jeu si bien sûr cette équipe veut faire le doublé, après que déjà en 2003-2004, Eniba avait remporté la Ligue des Champions et le club fera partie des clubs restants qui vont remporter la Coupe de la Confédération et bien sûr la Ligue des Champions.
Merci beaucoup Eniba hein, qui va affronter le Raja de Casablanca, tombeur des Congolais du Kara de Brazzaville. Déjà vainqueur au Congo à l'aller, les Marocains ont validé leur billet pour les demi-finales en battant le Kara de Brazzaville 1-0. On va écouter la déception de l'entraîneur du Kara, Jacques Onsira.
Nous avons eu un but matinal et pour essayer de rembourser, ça a été un peu difficile, pour ne pas dire impossible, puisqu'à la fin, on n'a pas pu remettre le but. Mais ce que je dis, c'est que Raja a su gérer son match et nous avons cherché à courir derrière le score, mais il y a 90 minutes, on ne pouvait pas plus que...
Voilà, Jacques Onsira, l'entraîneur du Kara. On parlait des malheurs du WAC. Le Raja, l'autre club de Kaza qui a le sourire, Amine Birouk. Hein.
On parlait d'un club qui était décomposé avec une grave crise financière, mais il a su garder les joueurs expérimentés. Aujourd'hui, la stabilité institutionnelle est revenue au club. Les supporters sont à fond derrière cette formation qui a rajeuni, qui a du sang nouveau, mais qui a gardé les cadres. Et les cadres possèdent ce vécu africain qui est capable de mener ou qui est susceptible de mener le Raja vers les sommets du football africain, en tout cas de cette Coupe de la CAF. On rappelle que lors du match aller, il y avait un match tout en maîtrise à Brazzaville de la part des Verts et Blancs. Cette fois-ci, à Casablanca, il a suffi d'un coup de pied arrêté, d'une reprise de la tête de Mossini un jour à la quatrième minute pour mettre les hommes de l'Espagnol Juan Carlos Garrido à l'abri. Ils se sont contentés de gérer la partie. Ils ont cherché certes à doubler la mise face à une équipe congolaise qui a montré un bien meilleur visage qu'au match aller, mais visiblement, ils ont plus chercher à gérer la partie qu'à enfoncer les clous. Et aujourd'hui, on retrouve une équipe du Raja capable de gagner le titre africain, une consécration qui suit les Verts et Blancs depuis 15 ans, depuis le titre de la Coupe de la CAF remporté en 2003 sous la houlette de Saint-Henri Michel. Le Raja possède aujourd'hui des atouts avec des joueurs expérimentés, un panachage avec des jeunes talentueux et surtout un tableau assez intéressant. Il va falloir tout de même se débarrasser des Nimba, mais ils auront l'avantage de jouer le match retour le 24 octobre prochain à Casablanca. Il faudra revenir du Nigeria d'Aba le 3 octobre prochain avec le minimum de dégâts pour pouvoir concrétiser et se hisser vers une nouvelle finale africaine.
Et l'autre demi-finale entre les Égyptiens d'Al Masry face à l'AS Vita Club. Les Égyptiens ont battu l'USM Alger en Algérie sur le même score qu'au match aller, 1-0. Et le club de Kinshasa, après sa victoire 3-1 à domicile à l'aller, qui a connu quelques frayeurs mais qui a pu ramener un match nul du Maroc contre la Renaissance de Berkane, un but partout. Les Dauphins Noirs qu'a qualifié hein, les hommes de Florent Ibengue, Thierry Kambundji à Kinshasa.
Et, le plus dur était déjà réalisé à Kinshasa. Il était question d'aller défendre, pourquoi pas consolider les deux buts d'avance face à cette équipe de Renaissance de Berkane. Ce vrai club s'en est très bien sorti. Hein. C'est vrai, vous l'avez noté, les Dauphins Noirs qui ont souffert face à une formation qui a commencé à marquer très tôt dans le match. Le club a concédé un premier but dès la sixième minute de la partie. Hein. Dans ces conditions, c'était très difficile pour les Dauphins Noirs qui n'y arrivaient pas, qui ne faisaient que subir les assauts répétés des Berkani, donc de savoir les contenir. Mais il a fallu justement un très très bon match de Nelson Lukong Bongaman, déjà le gardien camerounais de V-Club, et de l'autre côté également la maladresse des Marocains pour maintenir le score à 1-0. Et à force de pousser, on s'expose aux contre-attaques. C'est dans ce registre que les V-Clubiens ont été réalistes en fin de partie, hein, lorsque sur un centre de Muzungu qui venait d'entrer fraîchement dans le match, Fabrice Ngoma Luamba, le maître à jouer de V-Club qui était absent pour cause d'accumulation des cartons jaunes lors de la manche aller. Fabrice Ngoma donc qui a égalisé pour les V-Clubiens, qui les a mis définitivement à l'abri. V-Club a donc réussi une très très belle étape des quarts de finale sur les deux matchs et va rester sur place préparer cette demi-finale de la Coupe de la Confédération et ne regagnera Kinshasa que le 27 septembre pour livrer un match de championnat 3 jours plus tard, puis se rendre en Égypte pour disputer le 3 octobre prochain le premier acte des demi-finales.
Merci beaucoup Thierry Kambundji, Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Allez, j'espère revenir au football par la suite, mais je voudrais, on ne parle pas souvent du sport féminin, on ne parle pas souvent du basket dans cette émission, mettre à l'honneur bien évidemment l'équipe sénégalaise qui a réussi quelque chose d'historique au mondial féminin de basket en Espagne en battant sur le fil la Lituanie 70-69. Tenez-vous bien, c'est la première fois qu'une équipe africaine s'impose dans un match de poule de cette compétition. On va vous entendre, Amdine Sy, d'abord on va écouter Cheikh Sarr, le coach de l'équipe nationale féminine du Sénégal après cette victoire historique.
D'abord, je félicite les filles, tout le Sénégal, pour ce match. C'est un match extrêmement difficile où on a eu des changements de leadership 22 fois, ce qui a prouvé qu'il y a un chef étranger énorme. Je pense que ce n'est pas un mental fort. De la constance dans l'effort, tu vas lâcher. Je pense que les filles ont répondu quand il fallait. C'est un match difficile simplement parce que la Lettonie est une équipe très forte, extrêmement agressive à l'extérieur. Il fallait défendre haut, les ralentir, ensuite garder le tempo.
Voilà, c'était Cheikh Sarr, l'entraîneur des Sénégalaises. Amdine Sy, on en parle encore à Dakar. Aujourd'hui, pas de match. Il faudra affronter les Chinoises demain.
Tout à fait. Pour revenir à l'exploit quand même de l'équipe nationale du Sénégal, ça fait Nicolas Pinon que c'est un triple exploit que les Lions ont réalisé. Parce que non seulement c'est la première fois qu'une équipe africaine remporte un match de poule depuis 65 ans, mais c'est la première fois également qu'une équipe africaine s'impose devant une équipe européenne et les Sénégalais l'ont fait. C'est vrai que le Nigeria a par la suite battu la Turquie, mais également il faut dire que le Sénégal s'est qualifié pour le deuxième tour et c'est la première fois que cela se réalise. Donc les Sénégalais ont réalisé quand même un triple exploit pour cette victoire contre la Lettonie. Mais comme vous l'avez dit, demain, ce sera un autre match contre les Chinoises. Les Sénégalais vont jouer ce match avant, puisqu'elles avaient bien débuté le tournoi en tenant la gage haute face aux monstres du basket mondial. Je vous parlais des Américaines. Elles n'ont perdu que de 20 points. Cette défaite encourageante les a galvanisées. Cela a poussé les Lions à avoir cette victoire historique. Maintenant, demain, il va falloir négocier contre la Chine. Pourquoi pas créer un autre exploit pour se classer à la deuxième place. À défaut de la deuxième place, elles vont se contenter de la troisième place. Comme les quatre premières équipes se qualifient directement pour les quarts de finale, les équipes classées deuxième et troisième vont jouer des matchs de barrage pour pouvoir se qualifier en quarts de finale. Je pense que l'aventure va se continuer pour les Lions.
Merci beaucoup à Medine. On va vous donner cette dernière information ce soir en provenance du Gabon. C'est Daniel Cousin finalement qui sera le seul et unique sélectionneur de l'équipe nationale puisque Pierre-François Aubameyang, le père de Pierre-Emerick Aubameyang, a renoncé pour cause de santé. Comment vous expliquez ce choix finalement et cette annonce du gouvernement qui avait donné deux noms, Jules Valentin Ngoué, pour finalement se retrouver avec seulement Daniel Cousin, l'ancien capitaine?
Oui, c'est un peu... On parle le côté amateur aussi de la démarche. Mais sinon, l'équipe a été choisie, c'est surtout pour jouer un rôle de catalyseur et de leader, redonner un peu de la confiance et du tonus à ce groupe gabonais qui, ces derniers temps, a le drapeau en berne. Et en tant que leader qu'il est là et non en tant que technicien. Donc je crois qu'il sera bien entouré et il sera sûrement entouré d'entraîneurs chevronnés mais pas très connus et qui seront dans les différents domaines. Et donc je crois que si Aubameyang a renoncé pour des raisons de santé, il n'a pas été consultable.
Voilà. Mais merci beaucoup Jules Valentin Gouin, ainsi s'achève cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier à Kinshasa, Thierry Kambundi, Top Congo FM, notre station partenaire. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Un coucou également depuis Casablanca. Amine Birou qui était avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
On salue également Jules Valentin Gouin avec nous depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
On remercie également Élisée Patine qui était avec nous depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Et enfin, un coucou à Amédine Sy en partance pour le mondial de basket en Espagne. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas Pinot et à lundi prochain pour un autre numéro de Sport Romain.
Au revoir, merci Michel Joseph à la mise en onde. Nicolas Pinot était à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA.